Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour les amis, 15h46 exactement, voilà, nous sommes en direct au CIPCA édition 2024, je suis ravi d'être avec vous, vous êtes sur Immo et sur Territoria. Et bien évidemment, on continue à égrener la fabrique de la ville avec ceux qui la composent et ceux qui y participent. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Immo. J'avais coutume de dire que je la lisais déjà avant même de la connaître. Une grande dame de l'immobilier qui est avec nous, c'est Barbara Kirali.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ça va bien, ça va bien.
Voilà, je ne pouvais pas t'accueillir différemment, ce n'était pas possible. Délégué général de l'association des directeurs immobiliers.
C'est ça.
Ils ont bien fait, hein, c'est très bien. Parce que maintenant, l'ADI, voilà, on est partout grâce à Barbara. Merci d'être avec nous. Également, on peut le dire, un jeune start-upper, un entrepreneur.
Avec joie.
Voilà, un start-upper, nouvelle génération. Intéressant le nom de sa boîte, Sarment. On va me dire pourquoi ça s'appelle Sarment. Et c'est Walid Goudien qui est avec nous. Bonjour Walid.
Bonjour Sylvain, ravi d'être là.
Sarment, pourquoi le mot Sarment ?
Pour deux raisons très basiques. La première, nos associés et moi, on aime le vin, on aime les bonnes choses. Et je crois qu'on travaille tous très dur, mais on ne perd pas de sens, le sens de la vie. La deuxième, plus terre à terre. Le monde de la vigne, il est exigeant, il y a un savoir-faire, il y a une approche du temps long et on pense que c'est quelque chose qui est important pour créer de la valeur en immobilier. Voilà, donc on a, en toute simplicité, choisi Sarment.
Voilà.
Il y a une troisième raison, en anglais, ça ne veut rien dire.
C'est-à-dire quoi ? Oui.
On peut dire Sarment, ça fait très chic, mais c'est juste très chic.
Alors, je vais vous dire une chose, comme quoi finalement, dans l'immobilier, on peut faire un peu de philosophie et un peu d'art de vivre, quelque part. C'est intéressant comme notion. Vous êtes spécialisé donc en maîtrise d'ouvrage et en investissement au sein de Sarment. Vous avez un parcours, un track record sur l'immobilier. Et je voudrais que... Alors, je vous invite parce que vous avez fait une conférence sur, justement, les investisseurs, la relation avec l'investissement, la finance, mais aussi les utilisateurs. Comment, finalement, faire coexister des notions qui sont un peu particulières, à l'instar, finalement, d'un contexte actuel, on peut le dire, qui n'est pas forcément très réjouissant, notamment sur des classes d'actifs tertiaires, bien évidemment. Alors, je ne dis pas partout, hein, bien évidemment, mais quand même, comment on fait aujourd'hui, dans l'optique d'une décarbonation nécessaire, de toujours conserver soit la même trajectoire de revenus, soit la conservation de la valeur de son actif, soit même être un facteur d'accroissement de l'actif, puisque aujourd'hui se pose la question de ces éléments-là, et où comment la décarbonation peut être vecteur de croissance ou vecteur de création de valeur. Est-ce que c'est un peu ça l'idée, Barbara ?
L'idée, c'était surtout d'aligner les planètes. L'idée, c'était de dire que on a un peu tous le même objectif, à savoir décarboner son patrimoine, qu'on en soit propriétaire, qu'on en soit utilisateur. L'utilisateur, c'est le client final, ou qu'on en soit celui qui va, enfin, le financeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre réglementaire. Donc, si on part de la France, c'est le dispositif éco-énergie tertiaire. Et puis après, on remonte, on a la taxonomie, on a CSRD, on a la nouvelle directive bâtiment énergétique, belle performance énergétique. Et on se dit qu'en fait, il faut se parler parce qu'on est en pleine crise de l'immobilier. Et donc, en fait, chacun est un peu de son côté avec son prisme. Et déjà, rien que de dire que tout le monde a le même objectif, alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes voies pour y aller, ça fait du bien de le poser. Et ensuite, l'idée, c'était que chacun parle de ses problématiques à lui, que chacun se comprenne et comprenne l'autre, en fait, pour pouvoir essayer de travailler ensemble par la suite. Walid, je te laisse peut-être compléter.
C'est exactement ça, Sylvain, Barbara. Moi, ce qui m'a frappé ce matin, le titre de la conférence, c'était « Parlons vrai ». Le « Parlons vrai », c'est assumer la crise dans laquelle on est et qui prend quatre formes. La première, durablement moins de capitaux alloués à l'immobilier. Bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle, un retour en grâce du sous-jacent. On va se réintéresser au tangible avec une approche paysanne, j'ose le mot,
pour bien
faire notre métier.
Ah, bravo.
Le deuxième enjeu, l'ESG. L'autre bonne nouvelle...
Alors, ESG, environnement...
Environnemental, social et gouvernance. Tout ce qui est impact et un investissement responsable. On doit passer de l'incantation à l'action. Et c'était un peu l'arrière-pensée qu'on avait explicite, qu'on avait avec Barbara pour cette table ronde. Le troisième sujet, Barbara a utilisé un terme hyper important et à l'ADI, nous, on les apprécie pour ça. Ne jamais oublier dans la chaîne de valeur le client final. C'est probablement quelque chose qui a été un peu le cas lors de la décennie écoulée où l'argent était plus facile. on a tout un tas d'acteurs qui ont oublié que tout ce qu'on fait, c'est à l'arrivée pour que ça ait du sens et pour que ça serve à quelque chose. Et le quatrième enjeu, même s'il a été partiellement effleuré ce matin, et c'est peut-être l'objet de table ronde à venir, l'immobilier était politique. En raison de la crise climatique et de la crise du logement, l'immobilier sera de plus en plus politique. Et donc nous, ce qui nous a passionné avec Barbara ce matin, c'est de casser les silos et de faire dialoguer une banquière, une aménageuse, une investisseur, un locataire, un opérateur, et de voir comment ce petit monde pouvait converger pour faire bouger les lignes.
On aurait même pu y penser à avoir un élu local. Hein.
On n'a pas eu d'élu local, mais on a quand même eu un grand aménageur. On a eu Paris La Défense qui expliquait comment est-ce qu'eux avaient posé leur stratégie de décarbonation et comment est-ce qu'ils accompagnaient les entreprises qui sont soit utilisatrices, soit propriétaires des actifs sur leur territoire vers cet enjeu-là. Et à un moment donné, on pose des solutions, il n'y a plus qu'à. En fait, il faut bien avoir en tête que sur cet enjeu de la transition écologique, c'est qu'il y a des chiffres qui sont publics. Typiquement, le rapport Pisani-Mafous dit que chaque année, pour financer la transition écologique des surfaces assujetties aux dettes, le dispositif éco-énergie tertiaire, il faut poser sur la table 30 milliards par an.
C'est clair.
30 milliards, dont 10 milliards pour l'immobilier public. Donc 20 milliards pour l'immobilier des entreprises privées. À côté de ça,
c'est le chantier du siècle.
Mais en 2023, IFORCE dit qu'il y a 6 milliards d'euros qui ont été investis sur cet enjeu-là dans l'immobilier. Très concrètement, on n'aura pas les moyens de financer tout ça si on ne trouve pas des solutions nouvelles. Et les solutions nouvelles, elles peuvent être réglementaires, elles peuvent être fiscales, elles peuvent être de l'ordre de l'usage, elles peuvent être de l'ordre de l'optimisation de l'industrie immobilière, parce que moi, ça fait un an que je suis à l'ADI et ça fait un an qu'on m'explique qu'il y a plein de choses qui se font parce que bon, on a l'habitude de les faire comme ça et qu'il faut peut-être optimiser pour faire des économies financières, mais économie carbone, économie énergétique. Et donc c'est ça qu'on se propose de faire, c'est faire parler les gens. J'ai assisté à une conférence, une collectivité locale qui nous disait qu'elle avait, Normande, 60 bâtiments, si elle veut les mettre au niveau du DET, elle va devoir investir 3/4 de sa capacité d'investissement chaque année pendant 10 ans pour remettre à jour, remettre à niveau ces immeubles.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Et surtout pour les collectivités locales qui ont été très lourdement impactées par les leviers. Alors justement, on est dans le cœur du sujet. Et on n'est pas là pour faire de l'angélisme non plus. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément possible. Moi, la question que je vais vous poser, c'est que j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a le retour au tangible.
Oui.
En fait, voilà. Et effectivement, ça ne veut pas dire qu'on définanciarise, mais on revient finalement à des choses. Je trouve ça assez paradoxal, pour tout vous dire, qu'il ait fallu attendre une crise qui soit parfois fatale à certains pour qu'on puisse se dire, finalement, il y a quand même des gens qui occupent, il y a quand même des usagers, et ça serait temps qu'on s'en préoccupe. Intéressant. Dont acte. La décarbonation, c'est un mouvement anthropologique, il ne faut pas s'y tromper. C'est une vaste entreprise de changement du monde dans le cœur des villes. La question que vous avez posée, Barbara, c'est finalement comment on trouve les leviers financement. Et c'est là qu'à mon avis, ça devient politique. Politique au sens de la cité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les dispositifs d'aide à la rénovation, parce que vous dites, voilà, il faut trouver des moyens, il faut trouver des solutions, il faut trouver des best practices. Mais il y a des textes qui vous obligent à le faire. Il y a un décret tertiaire qui vous oblige à être en phase. Il y a un point normatif qui est sans précédent qui pèse sur votre activité. Bon, la question, alors, on met les pieds dans le plat. Puisqu'on vous impose, avec la taxonomie, avec les transpositions de directives européennes, et OK, pas de problème, on sait le carbone, le bâtiment, les déchets, les problématiques, etc. Mais comment on finance tout ça?
C'est bien la question, et c'est comment bien pour ça qu'on veut faire bosser les gens ensemble.
La réflexion que je voudrais que nous ayons, c'est comment on fait quand on a un État qui impose dans une économie dans laquelle, en ce moment, on voit bien qu'il y a une trajectoire sur la ressource qui va manquer.
Je vais être volontairement un peu, puisque vous nous provoquez, je vais vous provoquer.
Oui.
J'ai toujours considéré, et je ne suis pas angélique quand je dis ça, que c'était trop facile de dire que l'État imposait trop, contraignait trop et qu'on n'y arrivait pas, nous pauvres acteurs privés. Je pense que la responsabilité du privé, moi je viens de monter ma boîte, donc j'ai cette sensibilité-là,
bien sûr.
C'est de poser les bons ordres de grandeur. Pour y arriver, il faut être un peu précis et un peu granulaire. Et être granulaire sur le sujet de la décarbonation sur les bureaux, c'est déjà ne pas mettre sur le même terrain de jeu les 60 millions de mètres carrés qui composent par exemple le parc tertiaire francilien. Sur ces 60 millions de mètres carrés, il y en a 45 qui sont en plein dans le sujet évoqué par Barbara. 45 qui sont pérennes, qui vont avoir un usage pérenne dans le temps. Et là, la question, c'est celle du partenariat et du partage des responsabilités du financement de la transition entre bailleurs et locataires. Franchement, suite à la table ronde de ce matin, je suis plutôt optimiste. À ne pas confondre avec les 15 autres millions de mètres carrés qui sont peu ou prou, rupture du télétravail oblige, et moi je considère que le télétravail est au tertiaire ce qu'a été Internet au commerce.
Ah, carrément.
Ces 15 millions de mètres carrés, à horizon 15 ans, ils sont obsolètes du point de vue fonctionnel. Donc le sujet n'est même plus celui du carbone, le sujet est celui de l'acte politique pour dire ce qu'il faut en faire et de l'acte économique pour accepter une perte de valeur à un instant T pour refabriquer la ville sur elle-même.
Réduire le volume de mètres carrés tertiaires dans notre pays
exactement.
Qui est le volume le plus important en Europe. On est d'accord.
Exactement.
Donc je suis. Très bien.
Et donc,
provoque. Non, c'est bien qu'on se provoque. On passerait donc 53 millions.
Il y a une soixantaine de millions aujourd'hui en Ile-de-France.
À 45 millions.
À horizon 15 ans. Je prends le pari aujourd'hui.
Le parc locatif, on vous enregistre, c'est pareil.
Oui.
Le parc locatif tertiaire, dans 15 ans, c'est 45 millions de mètres carrés.
Je prends le pari aujourd'hui. Et deux indices. Dans mon ancienne vie, j'ai pu accompagner beaucoup de grands comptes. L'intégralité de leurs projets s'accompagnait d'une réduction d'au moins 30% de l'empreinte. Premier point. Rappelé ce matin à la table ronde par le directeur immobilier d'Astom, qui nous redisait, Jérôme Arnault, avec beaucoup de lucidité, dans notre monde, l'usage, l'intensité d'usage prime. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un seul mètre carré de trop.
Ce qu'il n'a pas. En fait, je trouve que si on veut faire face à ces enjeux-là, il faut aussi faire preuve de précision. Donc là, tu as fait un point sur les chiffres, les données. Il faut aussi se dire que quand on dit immobilier tertiaire, on dit beaucoup immobilier de bureau. En fait, l'immobilier tertiaire, ce n'est pas que le bureau. C'est le bureau et tout l'immobilier qui héberge l'activité d'une entreprise. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez les entreprises de services, évidemment, elles sont très exposées sur le bureau et elles en sont plutôt locataires. Maintenant, les adhérents de l'ADI, eux, ils sont majoritairement propriétaires de leur patrimoine. Typiquement, un acteur industriel m'expliquait qu'il avait 5 millions de mètres carrés en propriété à travers le monde, 300 000 mètres carrés de bureaux en pure location, parce que le marché est extrêmement financiarisé. Tout le reste, il était en propriété. Tout le reste doit être remis au goût du jour. Alors évidemment, il n'y a pas le dispositif éco-énergie tertiaire, il n'y a pas la taxonomie européenne partout dans le monde. Je ne fais pas preuve d'angélisme.
Il n'y a pas les C2E partout.
Qui permet
de financer, parce qu'on parlait des financements, les C2E, c'est un dispositif qui est quand même extrêmement vertueux en soi, si la Cour des comptes veut supprimer le dispositif.
Les C2E, c'est un dispositif qui a ses avantages, c'est un dispositif qui fonctionne aussi, c'est un dispositif aussi qui est peu utilisé par les entreprises.
Pourquoi ?
À creuser.
Pourquoi ? Alors, la Cour des comptes a fait un rapport, vous l'avez lu, sur les C2E, vous l'avez lu, Walid ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ça ? Parce que dans ce que vous disiez, alors je vais dire que je partage votre point de vue. Vous avez raison, on va arrêter de compter sur l'État.
Alors mon point n'est pas de compter sur l'État, c'est de faire avec l'État.
L'État fait largement dans son boulot.
Exactement.
Et même dépasse ses prérogatives, puisqu'il enferme une industrie dans un poids tel que. Alors moi, je suis ravi que vous ayez une bonne philosophie là-dessus, mais je peux vous dire que certains de vos confrères, aujourd'hui, ils le vivent comme une contrainte. Ils le vivent vraiment comme une contrainte.
Ils ont raison.
Ils se disent, c'est trop. C'est un peu comme les problématiques de conformité et de compliance dans les banques, qui les enferment complètement et qui freinent, par exemple, l'émergence de l'entrepreneuriat, et vous en savez quelque chose. Et donc là, on a un instrument qui s'appelle les C2E, qui permet de financer, qui du coup, finalement, c'est intéressant parce que l'État y est pour rien, sauf que l'État est en train de se dire, avec la Cour des comptes, peut-être qu'on devrait supprimer le dispositif.
Moi, ma lecture, elle est à nouveau au ras de la terre, Sylvain. Les C2E, c'est très vertueux pour enclencher une dynamique. Il n'empêche que la vraie fabrique de la ville responsable, c'est celle qui est plus frugale dans sa consommation foncière, c'est celle qui se focus sur le déjà là, et c'est celle qui s'assure que les mètres carrés sont correctement utilisés et de manière intense. C'est ça mon propos. Donc, en réalité,
les chiffres vous donnent absolument raison.
La transformation de monde dans laquelle on est dans l'industrie immobilière, c'est celle-là. Et moi, je préfère voir le côté positif de cette transformation, qui est, et c'est vachement plus engageant de se dire qu'on a la chance d'être dans une filière de transition plutôt que de se dire qu'on est dans une filière qui est condamnée à bien ne sûr. Plus exister. Moi, je pense qu'on est dans une filière de transition pour les capitaux, pour la fabrique de la ville et pour les talents. Et ça, ça m'excite dans le projet entrepreneurial qui est le mien et dans le développement des différentes relations, projets, investissements qu'on peut faire avec des partenaires comme l'ADI.
Le bureau, bien sûr, est en crise. On l'a vu, hein, on a regardé les chiffres. C'est une classe d'actifs qui est en ce moment malmenée, on peut le dire. Est-ce que dans la trajectoire des revenus, dans la consolidation des indicateurs de rentabilité, là, du coup, la rénovation énergétique, la transformation est un formidable levier pour non seulement conserver les valeurs, mais peut-être même les accroître?
Alors, je ne suis pas à l'IEIF ni à l'IFPIM, donc je serai un petit peu coincée pour te répondre. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, ce que mes adhérents me disent et ce que mes partenaires me disent, c'est que le sujet de la transition écologique est devenu un sujet économique.
Ok.
Donc tu as la réponse.
Donc, ils l'ont intégré comme un ratio.
Ah, mais d'ailleurs, c'est dans les KPI.
D'ailleurs,
c'est dans les indicateurs de performance, en fait.
Et d'ailleurs, la taxonomie, comme d'ailleurs les investissements à impact, ont intégré, vous êtes d'accord, Simon, des ratios extra-financiers qui qualifient les investissements sans lesquels il n'y a plus de fonds qui est alloué sur l'investissement en termes d'actifs. On est d'accord là-dessus?
On est évidemment d'accord.
Il
n'y
a plus un investissement.
Du coup, Sylvain, petite dédicace à mon frère Simon.
Oui.
Puisqu'il y a eu un petit lapsus révélateur que
j'ai dit Simon,
ouais,
ah oui d'accord, pardon,
que j'admire et que
oui, effectivement, voilà, un petit clin d'œil pour Simon Boudiard qui est directeur général de l'Office foncier solidaire des Yvelines. Voilà,
je vais pas répéter ce qu'a dit Barbara, je suis totalement aligné. Je pense que vraiment le constat de ce CIPCA, et en 3 ans il y a eu un changement important, c'est qu'il n'y a plus de débat sur le quoi. Vraiment, tout le monde est aligné là-dessus. Et on voit la filière se mettre en route sur le comment. Une des clés, c'est celle de la transversalité et de favoriser le dialogue. Et je crois que tu as lancé une initiative là-dessus, Barbara, ce matin, de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes et arrêter d'être chacun dans notre ligne de nage.
Ils se parlaient avant ou pas?
Ils se parlaient, mais c'est vrai que l'utilisateur était finalement vu... un peu un bout de course, quoi. On faisait de l'immobilier et puis finalement celui qui l'habitait, on s'en fichait un petit peu. Mais c'est pareil pour le logement finalement.
Oui.
Moi j'étais au moniteur avant, j'observais des programmes qui n'étaient pas conçus pour les gens qui allaient vivre dedans.
Non, mais
voilà.
C'est...
Mais sur le sujet qui t'intéresse et qui t'anime sur l'ESG, je t'invite à aller voir l'IFPIM qui a lancé sa grille ESG pour analyser les projets à financer ou à refinancer. Et on m'a dit la semaine passée dans un petit déjeuner débat de l'ADI et on nous l'a redit ce matin que les critères ESG allaient être pénalisants. Mais oui, si les critères ne sont pas respectés, le banquier va finir par pénaliser finalement l'emprunteur.
C'est clair. Absolument.
Et donc tu vas soit, dans un premier temps, emprunter plus cher. Dans un deuxième temps, peut-être que tu ne pourras plus du tout emprunter parce qu'il faudra que tu te mettes dans les clous de la rénovation énergétique et de la transition écologique.
Tout à l'heure, vous avez abordé, Walid, la frugalité.
Oui.
La sobriété nécessaire. Sauf qu'en même temps, on a une démographie qui a quasiment fait exploser et doubler la demande de logement en 20 ans. Alors, je ne dis pas qu'il faille continuer à s'étaler de manière urbaine, mais que la densification, c'est un élément important. L'occupation, parce que vous avez dit une chose sur l'occupation de l'espace.
Ouais.
Mieux occupé. On a des vrais relais. Parce que justement, on parlait de l'immobilier obsolète. Avec Barbara, on a fait de multiples émissions et on a même eu l'impression de faire des incantations. En se disant, il y a une ressource foncière considérable de transformation des bureaux en logement. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on rêve quand on dit ça et qu'on se dit que finalement, sur le papier, ça peut être une très très bonne idée, mais en pratique, ça coûte trop cher, faut déposer les matériaux, le réemploi, on n'est pas mûr, etc., etc.
Sylvain, à nouveau, j'en reviens à mon 45 millions, 15 millions. Là, on parle des 15 millions qui vont être durablement obsolètes.
D'accord. C'est du logement potentiel, ça?
C'est du logement potentiel, évidemment. Et aujourd'hui, il y a un bloqueur qui s'appelle le facteur économique. Et il faut retenir un facteur 10. Aujourd'hui, les expertises de ces 15 millions de mètres carrés sont peu ou prou, si je prends le territoire francilien, peu ou prou, à 5 000 euros du mètre et plus. Quand un bilan de promotion en conversion fait ressortir des valeurs à 500 euros et moins. Facteur 10. Sauf que cette réalité, elle finira par être actée par la chaîne. Et on va avoir cette chance inouïe pour les 15 à 20 années qui viennent de devoir refabriquer la ville sur elle-même. Et si je me plante de 1 ou 2 millions de mètres carrés, je pense que c'est l'échelle à laquelle je me plante. 15 millions de mètres carrés entre nos mains pour les 15 années qui viennent. Ça, c'est un magnifique défi pour l'industrie. Et c'est une source d'optimisme par rapport à la crise du logement. Et sur la crise du logement, enfin, je pense que la grande difficulté de ce thème, c'est qu'il est souvent utilisé avec des dessins subjectifs et biaisés en fonction de l'acteur qui en parle. Est-ce que c'est le promoteur, est-ce que c'est le maire, est-ce que c'est le banquier? Et on n'aura pas les mêmes chiffres.
Ou le constructeur.
Ou le constructeur. Et il me semble que sur le logement, c'est tout à la fois un enjeu de bonne utilisation du parc, et les bailleurs sociaux, par exemple, sont des acteurs qui se mettent réellement en mouvement. C'est un enjeu de qualifier ce qu'on appelle densité, et je fais une petite incise sur les amis de ville vivante et tout leur dispositif de densification douce dans le tissu pavillonnaire. C'est une des clés dont on ne parle pas assez. Et c'est enfin un enjeu de régénération urbaine, parce que des hectares de foncier mal utilisés ou tankés, déjà artificialisés, je pense pouvoir dire qu'on n'en manque pas en France. Donc c'est en mettant en commun ces volontés-là qu'on résoudra cet enjeu, me semble-t-il.
Alors moi j'ai une solution, c'est d'utiliser Sarban. Voilà.
C'est une belle conclusion.
Vous venez de résumer bien évidemment les choses. Non, parce que je vous écoute et je me dis que ça serait bien de théoriser ce que vous faites, parce que je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais je pense que sur le principe, vous êtes pile dans l'axe, mais je crois que l'aspect politique, public, collectivité locale, est à mon avis un des éléments que parfois on minore trop dans cette démarche. Voilà, on voulait mettre un focus sur vous deux et sur cette conférence. L'ADI, on peut trouver facilement toutes les informations sur Internet,
www.adi-france.fr.
On voit toutes les activités. D'ailleurs, on retrouve bien évidemment, d'ailleurs, peut-être prochainement, Barbara qui rallie derrière un micro sur un plateau pour poser des questions comme elle sait si bien le faire. Voilà, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau.
Merci,
Barbara.
Un plaisir partagé.
Et longue vie à l'ADI. Et ils ont eu le nez creux, franchement, très ingénieux d'avoir recruté une grande dame de l'immobilier. Un immense merci.
Merci,
une belle rencontre avec Walid Goudiard. J'aime beaucoup la façon dont vous approchez les choses. Ça mérite le débat.
Avec
et je crois que la vitalité démocratique, justement, c'est le débat.
Exactement.
Encore une fois, sans s'écharper. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous parlez justement de cette ressource foncière, parce que je le prends comme une ressource foncière, ces 15 millions de mètres carrés,
c'est le cas.
C'est un formidable levier dont on devrait tous se saisir. Et si la question devait se poser du financement, je pense qu'avec l'ingéniosité et la force que nous avons dans notre pays, on sera capable de trouver des solutions. On est d'accord là-dessus?
J'en suis aussi convaincu que vous.
Voilà, vous serez toujours les bienvenus sur l'antenne. Merci à vous deux.
Merci.
Il est exactement 15h09. Dans une heure, je vous rappelle les amis, je suis sur scène pour justement faire la remise, alors pas la remise, mais les témoignages sur les best practices et les immeubles exemplaires avec notre amie Hélène Genin, déléguée générale de BBCA. Ce sera à partir de 17h dans la salle des grands débats jusqu'à 18h30, on parlera aussi de certification, parce que les certifications, c'est un peu la vigie dans l'obscurité qui nous permet de piloter les bâtiments. Voilà, il est 16h10, on se retrouve dans quelques instants.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.